L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107FM. Sixième épisode, comment la grande peste de 1348 a bouleversé l'Europe. Il y a un an, presque jour pour jour, nous avons été confinés. Il y a un an, nous plongions dans l'inconnu. Pour ce triste anniversaire, nous allons nous attacher dans ce nouvel épisode de Clin d'œil à l'histoire de faire un bond au XIVe siècle. En 1348, la peste noire allait ravager l'Europe.
Il y a 600 ans, a sévi une des plus violentes épidémies de peste bubonique qui ait jamais frappé les pays méditerranéens et l'Europe tout entière. Les contemporains la désignaient souvent, d'après les taches foncées qui couvraient le corps des malades, comme le mal noir. Elle est demeurée parmi les pestes du passé, individualisée par ce nom de peste noire qui lui reste attachée comme la plus féroce de toutes.
Conséquences et intérêts démographiques de la peste noire de 1348 par Yves Renoir.
Les gens sont pris d'une fièvre comparable à la grippe et se mettent à vomir. Sur leur cou, leurs aisselles et leurs aines apparaissent des vésicules pleines de pus ou des bubons. Sous la peau, des hémorragies internes provoquent des taches pourpres et noires. La mort intervient au bout d'une semaine à la suite d'un engorgement des poumons comparable à une pneumonie.
En l'espace de 2 ou 3 mois, 20% de la population avait disparu. On ne pouvait qu'être atterré, pétrifié, abasourdi devant une catastrophe d'une telle ampleur, sans avoir la moindre idée d'un remède.
Bien qu'on ne connaisse aucun remède à ce mal, de nombreux médecins vont tenter l'impossible. Gentile da Foligno est l'un d'entre eux. Médecin-chef à l'université de Pérouse, il commence à prendre la mesure de l'épidémie.
Cette pestilence, ainsi nommée à Pise, ou cette épidémie, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, est la plus terrible que l'on ait jamais vue. Jamais aucun homme ne fut témoin d'une maladie aussi maligne.
En dépit de cela, les gens fortunés, frappés de terreur, se raccrochent au moindre espoir, prêts à payer au prix fort les secours de la médecine.
La cause directe de cette maladie est une substance empoisonnée qui provient du cœur et des poumons. Le médecin que je suis ne se préoccupe pas de l'au-delà, mais il doit examiner les symptômes de la maladie et tenter de lui porter remède.
Gentile recommande de manger de la laitue et de dormir alternativement sur le côté gauche et droit pour conserver la chaleur du foie.
Rester allongé sur le dos peut s'avérer désastreux.
Curieusement, pour ceux qui manifestent des symptômes avancés de la maladie, il a recours à une pâte faite de résine, de racines de lys blanc et de poudre d'excréments humains.
C'était une manière d'utiliser le corps humain pour qu'il se guérisse lui-même. On pensait que le sang, les matières fécales et d'autres excréments, après avoir été distillés ou traités, fournissaient une espèce de remède magique.
Mais de tels remèdes relèvent de la tradition médiévale et sont totalement inefficaces. Gentile da Foligno échoue également devant la maladie. Le 18 juin de l'an 1348, la peste ajoute son nom à la liste des victimes. Il était évident qu'il n'existait aucun remède pour cette maladie. Il ne restait aux hommes que la foi en Dieu et les secours de l'Église.
Raphaël, on vient d'écouter dans cet extrait de l'émission Théma consacrée à la peste sur Arte, des symptômes de la peste, des pistes pour la soigner assez intéressantes. Alors avant de revenir à la grande peste noire de 1348, c'est pas la première apparition de la peste en Europe, hein, il y a un passif.
Alors oui, il y a un passif, mais qu'on a eu du mal à clairement identifier parce que dans l'Antiquité, on a tout un tas de récits qui évoquent les grandes épidémies de l'époque, mais les descriptions sont trop lacunaires pour qu'on puisse vraiment identifier qu'il se soit vraiment agi de peste. L'un des cas les plus connus qui soit caractérisé par cela, c'est l'épisode épidémique qui frappe Athènes en 430 avant Jésus-Christ, en pleine guerre du Péloponnèse, alors qu'Athènes est assiégée par les Spartiates. L'une des principales victimes de cette épidémie, d'ailleurs, est Périclès, que tout le monde connaît. Le problème, c'est que on caractérise souvent, on qualifie souvent cette épidémie de peste, et en fait, on n'est pas du tout sûr que c'était vraiment une peste. Définir cette maladie, on s'est essentiellement appuyé sur un récit de Thucydide qui a été touché lui aussi par l'épidémie, mais qui a survécu, et qui a décrit l'ensemble des symptômes qui l'ont touché. Le problème, c'est que tous les symptômes qu'il décrit sont beaucoup trop nombreux et beaucoup trop violents pour qu'il s'agisse vraiment de la Yersinia pestis, de la peste noire telle qu'on la définit aujourd'hui, pour que ce soit ça. Donc, on a eu plusieurs théories qui ont tenter de déterminer quelle était l'épidémie qui a frappé Athènes en 430. Ça pourrait être une épidémie de typhus, ça aurait pu être une rougeole, de l'anthrax. On a même eu des théories récentes qui évoquent le cas d'Ebola, dès 430 avant Jésus-Christ. Mais vous avez aussi des grands défenseurs de Thucydide qui disent que c'est peut-être une variante de la peste qui a muté depuis, ce qui explique qu'on ait une différenciation des symptômes. Bon, quoi qu'il en soit, le premier véritable épisode de peste bubonique avéré en Europe est déclenché en 541 après Jésus-Christ dans l'Empire byzantin. Nous sommes alors en plein règne de Justinien, d'où le nom de cette peste que l'on qualifie de peste justinienne. Et celle-ci a fait des ravages déjà dans l'Empire byzantin. Elle a sévi pendant près de 200 ans sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Il y a eu des conséquences catastrophiques, tant sur la démographie que sur le domaine économique. Le bassin méditerranéen va connaître une paralysie de tous les flux commerciaux, par exemple, et ça va permettre, en fait, paradoxalement, l'émergence économique de l'Europe du Nord, qui prend la place de tous ces ports du sud méditerranéen.
Alors la question peut paraître bateau, Raphaël, mais finalement, c'est quoi la peste ?
Alors la peste n'est pas un virus, la peste est un bacille. Est un bacille que tout le monde sait, qui est transmis par la puce, elle-même transportée par le rat. Donc vous avez deux sortes de pestes qui sévissent principalement. La peste qui est dite bubonique, qui provoque donc l'apparition de bubons au niveau de l'aine et au niveau des aisselles, qui se caractérise par une mortalité dans 60% des cas, dans les 5-6 jours qui suivent le déclenchement des premiers symptômes de la maladie. Donc c'est déjà une forme très violente. Et vous avez un variant, le mot est à la mode, un variant qui est encore pire, c'est la peste pulmonaire, qui celle-ci est transmise directement d'homme à homme, essentiellement par la salive. Et cette peste-là, pulmonaire, est mortelle dans 100% des cas, et d'une violence extrême, puisqu'elle tue les individus en 2 ou 3 jours.
Alors, la peste noire, est-ce qu'on en connaît les origines ? D'où est-ce qu'elle vient et comment elle se propage en Europe ?
Alors, la peste de 1348, celle qui nous intéresse le plus, est en fait une importation de troupes venues d'Asie centrale. C'est un résultat des invasions turco-mongoles du XIIIe siècle. Et ces tribus turco-mongoles descendantes de Gengis Khan sont encore présentes en Europe de l'Est à la première moitié du XIVe siècle. Et lors d'un siège à Kaffa, qui est un petit comptoir situé dans la mer de Crimée, au nord de la mer Noire, nous avons eu un siège en 1347. La ville de Kaffa a résisté très longtemps, et pour faire céder définitivement la population qui était assiégée, les tribus envahissantes, les hordes turco-mongoles, ont balancé, dans ce qu'on pourrait appeler finalement la première guerre bactériologique, quelque part, des cadavres d'animaux infestés par la peste par-dessus les murailles, et ainsi les gens ont attrapé la peste, et la population de Kaffa, donc on était dans un port, en fuyant le comptoir, a transmis la peste. Donc ces bateaux, ces navires infectés se sont d'abord rendus à Constantinople, donc ils en ont profité pour laisser une trace de l'épidémie dans cette ville-là. Et ensuite, étant donné que Kaffa était un port génois, ce bateau est rentré à la maison mère, donc à Gênes, et de Gênes ensuite, la maladie a été transmise jusqu'au port de Marseille, et de Marseille après nous avons vraiment le déclenchement de l'épidémie qui va dérouler sur l'ensemble de l'Europe comme une sorte de tapis roulant. puisque l'ensemble de la France va être contaminé par l'épidémie fin de l'année 1347, début 1348, et elle va tourner ainsi pendant quasiment 4 siècles.
Les similitudes avec la pandémie qu'on connaît aujourd'hui sont donc nombreuses. Alors, on va parler des conséquences de la peste noire. D'abord, démographique, ça a été catastrophique.
Absolument catastrophique, c'est sans doute l'une des pires crises démographiques de l'histoire de l'Europe. Puisque on considère en moyenne qu'il y a entre la moitié et le tiers de la population qui disparaît lors de ce premier épisode de peste. C'est considérable. Quelques chiffres juste pour appuyer ce fait. Par exemple, à Albi, nous avons eu des recensements de chefs de famille, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque. On considère que l'épisode de peste de 1348 a provoqué la mort de 55% des chefs de famille. À Castres, 58% des chefs de famille sont morts. À Millau, 41% des chefs de famille. Donc en plus de tout ça, en plus de cette mortalité très importante, on a des retours de l'épidémie qui revient de façon cyclique et qui empêche un renouvellement de la population. On considère généralement que l'Europe a mis quasiment 5 siècles pour se relever du choc démographique provoqué par la Grande Peste. Si on regarde ce qui s'est passé dans le Rouergue, on peut quantifier de façon statistique le nombre de morts qu'il y a eu de la peste lors des différents retours pandémiques par le nombre de testaments que l'on a dans les archives. Et on observe des pics de mortalité forts au moment où la peste revient. Si je devais maintenant, pour appuyer mon propos, utiliser l'exemple du Gévaudan, nous avons deux recensements qui datent du XIVe siècle. L'un au tout début du siècle nous permet d'évaluer qu'il y avait en Gévaudan, donc ce qui correspond un peu ou prou à la Lozère d'aujourd'hui, 13 370 feux fiscaux. C'est-à-dire 13 370 foyers en capacité de payer l'impôt. Ce qui correspond à peu près à 53 000 habitants. On considère qu'il y a à peu près 4 personnes par foyer en moyenne. En 1364, soit après le premier épisode de peste, la Lozère, enfin le Gévaudan, ne compte plus que 4 610 feux, soit environ 18 440 personnes. Donc, alors, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là sont morts, ça veut aussi dire qu'il y a eu un choc économique, les gens ne sont plus en capacité de payer l'impôt. Et donc, on se rend compte un petit peu de l'écart qu'il y a ici, entre le début du siècle qui était florissant, et les premiers ravages de la peste en 1364. Juste encore quelques chiffres, encore une fois, pour appuyer mon propos. À Mende, on compte plus que 1200 habitants en 1364. Et lors d'un retour pandémique, en 1374, qui touche Mende, on observe que le chapitre cathédral perd 80 de ses membres, alors qu'ils étaient 160 avant la peste.
Alors, on le comprend, hein. Les gens au Moyen-Âge n'étaient pas, disons, figés, hein. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux et humains. Alors évidemment, l'économie du monde connu va être mise à mal, et c'est un euphémisme.
Oui, évidemment, c'est cette mortalité extrêmement violente, hein. Les mortalités sont très rapides, c'est un véritable choc et ça désorganise complètement la société française, ainsi que l'économie de toute l'Europe. Hein. La production agricole est en chute libre, la démographie s'effondre partout, il n'y a plus d'artisanat, les flux commerciaux sont paralysés. En plus, cette épidémie est mondiale, elle ne touche pas que l'Europe, elle est vraiment pandémique. Elle touche aussi le monde arabe, puisqu'à l'orée de la Grande Peste, on évaluait la population égyptienne à plus de 3 millions d'habitants. Là aussi, elle aurait été divisée de moitié à la suite des invasions de peste. On considère que cet épisode de peste qui touche l'islam est extrêmement virulent, parce que nous avons là encore des flux commerciaux forts, puisqu'on est dans une population qui vit dans un désert. Nous avons une concentration de la population dans les villes. Donc évidemment, les flux commerciaux font qu'on a une accélération de la diffusion du virus dans ces pays-là, et ça produit une catastrophe démographique là aussi, puisque la moitié de la population disparaît.
Alors évidemment, on parle de la Grande Peste de 1348, hein, c'est comme ça qu'on la nomme, mais il faut bien se rendre compte, tu en as parlé, hein, tu l'as abordé, qu'elle va durer avec plusieurs vagues qui vont littéralement submerger l'Europe.
Oui, elle revient par vagues, c'est dû à sa circulation. Le fait que nous soyons dans une sorte de tapis roulant fait que la peste revient dans une sorte de cycle qui a tendance à s'espacer avec le temps. Si on devait évaluer le nombre de pestes qui revient à Mende, par exemple, nous voyons que la première épisode touche Mende en 1348, elle revient en 1355, elle revient encore une fois en 1361, puis en 1374, puis en 1399, puis en 1435. Et elle revient de cette manière-là quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, sachant qu'on a eu des épisodes extrêmement virulents, encore une fois, au XVIIe siècle. On peut citer, par exemple, les pestes de 1628 et 1643 à Lyon, qui ont conduit à l'organisation d'une procession annuelle dédiée à la Vierge, vers Notre-Dame de Fourvière, qui a été bâtie aussi pour remercier la Vierge d'avoir débarrassé les Lyonnais de la maladie au XIXe siècle.
On mourait sans serviteur, on était enseveli sans prêtre. La charité était morte, l'espérance anéantie. Guy de Chauliac à Avignon pendant la peste noire.
Alors ici, cette citation est faite par Patrick Gélinet, 2000 ans d'histoire sur France Inter. Alors, je ne sais pas si la question est bonne, à toi de me dire, hein, Raphaël. Est-ce que la peste noire va permettre des avancées sur le plan médical ?
Pas vraiment. Les techniques médicales du Moyen-Âge ne sont pas du tout au point. La médecine est dépassée par les événements. On a du mal à identifier les raisons de la maladie, puisqu'il a été identifié par les médecins de l'époque que ce sont des miasmes dans l'air qui transmettent la maladie. Donc on est loin du compte. Hein. Vous avez entendu dans l'extrait du début quels étaient les remèdes qui étaient apportés et qui étaient complètement... inefficace vis-à-vis de la maladie. Citons tout de même donc Guy de Chauliac, dont on vient d'écouter un extrait, médecin très connu de l'époque, qui impressionne encore aujourd'hui par les analyses qu'il a pu faire et les descriptions des symptômes. Alors Guy de Chauliac, c'est pas n'importe qui. Guy de Chauliac, c'était le médecin des papes de l'époque, donc Clément VI, Innocent VI et le bien connu Urbain V, pape d'Avignon. Et c'est lui qui va gérer la peste avignonnaise dans les premiers temps. Il est donc sur les premières lignes, il a contracté la peste bubonique, et il s'est guéri lui-même en s'extrayant les bubons. Ces descriptions sont restées dans l'histoire de la médecine, puisque ces traités de chirurgie qui ont été écrits à cette occasion sont restés des références pendant plus de 3 siècles dans les universités de médecine. Je précise que Guy de Chauliac est un Lozérien, puisqu'il est né dans les Monts de Margeride, qu'il a fait ses études à Montpellier, dans l'université de médecine de Montpellier, et qu'il a encore aujourd'hui laissé son nom, au centre hospitalier de Montpellier. Du coup, Guy de Chauliac est une référence, mais malheureusement, les médecins ne sont pas à la hauteur, ne parviennent pas à endiguer la peste. Ils ont bien tenté... Plusieurs solutions. Hein. On peut parler notamment de la technique des saignées, puisqu'on pense que c'est le sang qui est vicié. Donc on extrait le sang en espérant que le malade renouvelle lui-même ses capacités sanguines pour guérir, pour s'auto-guérir en quelque sorte. Bon, le problème c'est que là, en l'occurrence, le remède est pire que le mal. Et les médecins eux-mêmes figurent parmi les premières victimes de la peste. Alors, vous avez tous en tête peut-être l'image de ces médecins bec que l'on se figure lorsqu'on pense à la peste. Pourquoi ces tenues qu'on pourrait juger de loufoques ? Parce que dans le bec de ces médecins, on entassait différentes épices qui étaient censées purifier l'air qu'absorbaient les médecins. Donc, la technique en elle-même n'était pas vraiment efficace. En revanche, le fait qu'ils mettent des gants, qu'ils mettent des lunettes, qu'ils mettent ce bec, qu'ils aient des tenues absolument étanches, les protégeaient des puces et donc les protégeaient de la peste. Mais cette tenue n'est mise au point qu'au XVIIe siècle. Elle n'est pas encore efficace, elle n'est pas encore au point au XIVe siècle.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Et nous parlons dans ce clin d'œil de l'histoire, à l'histoire de la peste noire de 1348 qui a ravagé l'Europe et les pays méditerranéens. Raphaël, on a vu les conséquences catastrophiques, économiques et démographiques qu'elle a eues, mais elle va en avoir aussi des plus profondes, d'abord d'ordre moral et religieuse.
Et oui, on peut très bien le concevoir quand on imagine que ce mal d'une extrême violence, d'une extrême brutalité frappe sans raison apparente la population. Donc forcément, on se réfugie, on va dire, dans le domaine religieux pour trouver une solution au mal. On a tous entendu parler, enfin là aussi c'est quelque chose que l'on a dans l'imaginaire collectif, de cette désignation de la peste comme le fléau de Dieu, le flagel del Dieu hein, qu'on avait en Occitan. Et l'Église va tenter donc d'apporter des remèdes à sa mesure pour soigner la peste. Vous allez avoir, par exemple, une multiplication des actes de piété, des processions qui sont organisées notamment par Urbain V à Avignon pendant son pontificat. Nous allons avoir des nouveaux mouvements aussi qui vont tenter de purifier, on va dire, les actions des hommes qui auraient pu provoquer la colère de Dieu et donc la peste. Je pense là au mouvement des flagellants, des gens, alors même s'ils ne sont pas très nombreux, hein, ce sont des petites communautés qui se flagellent pour se faire pardonner les actes de l'ensemble de l'humanité. Donc l'Église n'est pas très favorable à ce genre de flagellation publique et donc tente de, on va dire, trouver d'autres alternatives, même si celles-ci ne sont pas efficaces. À titre individuel, les hommes vont multiplier de façon spectaculaire les dons faits à l'Église. Là aussi dans un souci de purification de l'âme et pour ne pas subir le fléau de Dieu. Notamment l'article de la mort, là encore c'est quelque chose que l'on voit de façon très flagrante dans les testaments. Nous assistons à une exceptionnelle inflation des donations qui apparaissent dans ces testaments-là, dans ces actes-là, à l'article de la mort. Donc les gens veulent être sûrs d'accéder au paradis si jamais la poste les emporte en 3 jours.
Alors avec la pandémie que nous connaissons actuellement, on fait beaucoup de critiques envers les décisions politiques qui sont prises. Qu'en est-il au Moyen-Âge ?
Alors au Moyen-Âge, on ne voit pas vraiment de dimension politique dans le fait de soigner la maladie. Il n'y a pas de conséquences, particulièrement de révolte dans cette période contre le pouvoir politique qui soit lié à la peste. Bon, après, le pouvoir politique est déjà, notamment en France, est déjà pris dans la guerre de 100 ans, donc il a d'autres chats à fouetter en quelque sorte, et n'a pas vraiment de possibilité d'action sur les mesures sanitaires. Donc il n'y a pas vraiment de conséquences politiques. Cela dit, nous avons tout de même une recherche constante de responsables à la maladie, ce qui va conduire des minorités à être considérées comme des boucs émissaires. Et à cette époque-là, les minorités religieuses qui apparaissent le plus souvent sont les juifs, que l'on va accuser d'empoisonner les puits, par exemple. Et on va assister à plusieurs pogroms, notamment à Paris en 1300 et 1382, pour, encore une fois, trouver des responsables à la peste qui touche la population.
On a bien compris en tout cas que les conséquences sont de tout ordre, psychologiques, économiques, démographiques, etc. Mais on peut aussi en trouver qui sont culturelles et artistiques.
Oui, tout à fait. On a un fort impact culturel qui est souvent minoré en fait lorsqu'on étudie ces questions-là. Le fait que les hommes soient confrontés à la mort de façon quotidienne et de façon extrêmement violente va les poser devant la mort. La mort devient quelque chose d'omniprésent dans l'esprit des gens de cette époque-là. Et ça se traduit au niveau de l'art par l'émergence de ce qu'on appelle le macabre. Le fait que la mort soit figurée dans des œuvres littéraires, dans de la peinture et même jusque dans les cimetières. J'ai en tête par exemple la fabrication d'un gisant par le cardinal Lagrange à Avignon, où il ne va pas se représenter comme on pouvait le voir en majesté en tenue de cardinal, mais au contraire, il va se faire figurer son corps en décomposition. Voilà, donc c'est l'une des œuvres majeures du début du XVe siècle. Ce gisant a été réalisé en 1402. Vous pouvez d'ailleurs le voir gratuitement, alors quand les musées seront rouverts, au Petit Palais à Avignon, juste à côté du Palais des Papes. Et ce macabre est tout à fait symptomatique de ce courant artistique de l'époque, où on va délaisser un petit peu aussi, quelque part, on va dire, les aspirations à mener une bonne vie qui suit les préceptes de l'Église. Mais au contraire, on va essayer de recentrer la réflexion sur l'homme. Et en fait, ça préfigure ce qu'on appelle l'humanisme par la suite. Et quelque part, la Renaissance qui émerge à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Donc on a finalement une révolution culturelle qui s'entame dans cette seconde partie du XIVe siècle et qui a une manifestation concrète au XVIe siècle.
On arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va faire un bond dans le futur au XVIIIe siècle. Une peste énorme va s'abattre sur Marseille et sa région, qu'on appelle maintenant les Bouches-du-Rhône, et va être totalement abandonnée à son triste sort. Il faut dire, si j'ai bien compris, que cette peste aurait largement pu être évitée. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, nous sommes en 1720, nous avons encore ici affaire à un des ports les plus florissants de Méditerranée, à Marseille. Et nous avons donc une route de la soie qui existe déjà évidemment et des flux commerciaux constants avec l'Extrême-Orient. Or, on sait déjà à cette époque-là que la peste continue de circuler partout en Europe, notamment dans le Proche-Orient. Nous avons donc en 1720 l'arrivée d'un de ces navires affrétés pour le commerce de la soie et de cotonnade venus d'Extrême-Orient qui arrive à Marseille. Il s'agit du Grand Saint-Antoine. qui a pour armateur le maire de Marseille. C'est le grand échevin à l'époque. Or, ce bateau ramène avec lui le bacille de la peste. Contre toute règle, on va dire, prophylactique, de sorte à décharger le plus vite possible cette marchandise précieuse et rembourser ainsi les investissements qui ont été réalisés par les armateurs. Nous ne tenons pas compte de la quarantaine. Nous déchargeons la marchandise. Or, dans le coton et dans la soie, nous avons des puces. Et ces puces vont se propager dans l'ensemble du port et provoquer une vague de peste très violente à Marseille qui provoque la mort de plus de 90 000 personnes rien que dans la cité phocéenne et qui se répand ensuite dans toute la région. Et cela va nécessiter des mesures, on va dire, de confinement.
Là encore, les conséquences vont être tragiques, hein, puisque cette dernière peste connue en Europe va aboutir à l'effondrement des villes de foire de la région, comme Beaucaire par exemple.
Oui, parce que le fait que cette peste arrive à Marseille à ces moments-là va provoquer un grand effroi partout en France. Et pour la première fois, l'État va mettre en place, là cette fois-ci, des mesures sanitaires strictes, en confinant toute la région, toute la province, y compris le comtat venaissin, donc les alentours d'Avignon. Ça se traduit donc par 27 mois de confinement et 4 ans pour qu'une situation normale soit rétabli à Marseille. Une ligne de blocus militaire est carrément mise en place avec la création de 89 postes de garde. Un mur de peste de 36 km de long est construit pour isoler la région et le quart des troupes royales sont envoyées pour être sûr que les provençaux restent chez eux. Et ces mesures-là vont entraîner l'effondrement de toutes les grandes villes de foire, notamment celle de Beaucaire, qui ne se relève jamais de ce traumatisme.
C'était le sixième épisode de Clin d'œil à l'histoire, consacré cette fois-ci à la peste noire de 1348. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel opus consacré à Napoléon dans le cadre des 200 ans de sa mort. Raphaël, on te retrouve lundi dans la matinale pour ta chronique Histoire brève. On vous souhaite un excellent week-end sur Radio Barthès.
Pas vrai? Alors faut qu'on fasse un truc ensemble. Quand tu vas faire tes courses, respecte la distance. Quand tu pousses ton chariot, tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Tu suis les consignes
et tu galopes.
Et tu respectes la ligne
ou tu les chopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Machine. Tu dois avoir ce feeling pour les autres gens dans la même galère. Ensemble, ensemble, tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Tu stoppes
et tu galopes.
Y'a pas un mec qui aime vieille. Et vraiment, prenez soin de vous, les gens. Et prenez soin de vos proches, ok?